France Inter.
Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Marie, salut Marine. Demain, les filles, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'IVG dans la Constitution.
Les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles sont en train de voter pour inscrire le droit à l'avortement dans la loi fondamentale. Nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil, estime Gabriel Attal, le Premier ministre qui parle d'une dette morale envers toutes les femmes qui ont souffert dans leur chair. Un moment historique vécu aussi devant un écran géant, place du Trocadéro à Paris.
Et c'est là qu'on rejoindra l'actrice Anna Mouglalis, c'est l'invitée de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Nous serons en Turquie où l'inflation continue de grimper en flèche, 67% sur un an. Et puis Clarisse Kremer, soulagée, la skippeuse est blanchie des accusations de triche qui pesaient sur elle.
Au sommaire du 18-20 ce soir, faut-il désespérer du Proche-Orient une trêve et toujours d'actualité, c'est vrai, mais quand et après, où en sont les fameux buts de guerre déjà si peu clairs au lendemain du 7 octobre? Est-ce que c'est Israël de l'intérieur ou les pressions extérieures qui feront cesser ce conflit? C'est en partie ce qu'on demandera à Pierre Aski qui est avec nous dans un petit instant. Le reportage de ce soir est en Albanie où une vieille base soviétique dans une ville autrefois appelée Stalinville est en train de devenir une base de l'OTAN. Vous saurez que c'est parce qu'il regardait un match de cricket sur son téléphone qu'un conducteur de train a provoqué une catastrophe en Inde. Claude Guibal dans Le Monde à 18h50 nous emmène à Haïti et Cyril Sauvageau dans la BO du Monde vous emmène à la rencontre de Bobi Wine, chanteur et député en Ouganda. À 19h20, deuxième heure, c'est le téléphone sonne. C'est quoi? Le jour d'après, après l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution. Quel combat à venir? Les salaires, les responsabilités, la visibilité, la charge mentale. Faites votre choix. Vos questions pour nos invités au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'histoire s'écrit donc en ce moment au château de Versailles.
Une à une, un à un, elle et il montent à la tribune de l'hémicycle de l'aile du Midi. Les 925 parlementaires réunis en congrès votent en ce moment pour inscrire dans la Constitution de la Ve République cette phrase. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le moment est solennel, le décor aussi. Le Premier ministre est arrivé en compagnie de Jean Veil, fils de Simone Veil, qui il y a bientôt 50 ans faisait voter la loi autorisant l'avortement. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
En direct de Versailles, où vous suivez ce congrès, on retient d'abord le discours de Gabriel Attal, très applaudi sur tous les bancs.
Oui, un discours très féministe du Premier ministre qui dit vouloir clore le monde d'hier. Gabriel Attal parle de la souffrance des femmes.
C'est avec la plus grande humilité que je m'adresse à vous. Humilité. Car oui, mesdames, et je dis bien mesdames, l'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la détresse qu'ont pu connaître ces femmes, privées de la liberté de disposer de leur corps des décennies durant. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance physique d'alors, quand l'avortement était synonyme de clandestinité honteuse, de douleurs innommables et de risques fatals.
Applaudissements de tous les parlementaires dans cette impressionnante salle du Congrès, un immense hémicycle où sont réunis les 577 députés et 348 sénateurs. Chaque groupe politique, 10 pour l'Assemblée et 8 pour le Sénat, a ensuite eu droit à 5 minutes de temps de parole chacun. Alors impossible de les évoquer tous, mais les sénateurs LR sont dans leur rôle. François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat, réitère les doutes de son groupe quant à la formulation de liberté garantie. Du côté du RN, la députée Hélène Laporte déclare « Gardons-nous de tout triomphalisme déplacé à propos de ce vote que certains voudraient historique », dit-elle, et tacle au passage les élus, les femmes de gauche.
Pendant que la NUPES, dont le féminisme flamboyant se change subitement mutisme dès qu'il est question des menaces réelles pour les droits des femmes, à commencer par l'islamisme, s'offre celle d'un grand soir institutionnel. En réalité, au lendemain de ce congrès, rien n'aura changé pour les femmes et les chiffres de l'avortement resteront le reflet de tous les progrès sociaux que vous n'avez pas su réaliser.
Une femme de gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, justement, elle prend la parole pour crier victoire.
N'ayons pas peur des mots. Depuis 1975, les anti-IVG n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais cessé la guérilla. Alors aujourd'hui, nous leur disons, c'est fini. Arrêtez de vous agiter. Les Français ont choisi. Nous continuerons.
Voilà un peu l'ambiance hein, durant ces plus de deux heures qui se sont déroulées pendant ce congrès. On aura le résultat du vote vers 18h35.
Claire Flochel du service politique de France Inter en direct de Versailles grâce aux moyens techniques de Benjamin Thuot. La liberté d'avorter reste en danger, a également dit Gabriel Attal, en France et ailleurs dans le monde. En témoigne la position de l'Église catholique, rappelée au moment même où s'ouvrait le congrès par le Vatican, qui dit, je cite, qu'il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine, fermer les guillemets. En France, en tout cas, le moment est célébré avec plusieurs rassemblements prévus à Paris. Un message sera projeté sur la Tour Eiffel avec un sentiment spécial, indique la société qui exploite le monument. De quoi ravir celles et ceux qui suivent l'événement juste en face, place du Trocadéro.
Bonsoir Namouglalis.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous donner quelques minutes. Il y a des moments qu'on n'a pas envie de rater hein, dans sa vie. Être au Trocadéro, assister au vote du Congrès. Est-ce que c'était l'un de ces moments-là pour vous?
C'est un moment exceptionnel. C'est une victoire magnifique. Et c'est une émotion. Voilà, moi je suis bouleversée. On est nombreuses. On rend hommage à toutes celles qui se sont battues. Toutes celles qui sont mortes aussi. Celles qu'on pratiquait dans l'illégalité, on pense, il y a Simone Veil, on pense forcément à Gisèle Halimi, et puis toutes celles qui ont mené la lutte pour qu'aujourd'hui l'avortement entre dans la Constitution. Je trouve que c'est une première mondiale. Les seules constitutions dans lesquelles le mot avortement existe, il est accolé au mot interdiction. Et moi, j'ai un espoir inouï aujourd'hui. Je plane un peu, je dois dire. C'est historique. Je pense que ça va donner beaucoup, beaucoup d'espoir à plein de femmes dans le monde qui n'ont toujours pas accès. Je pense que ça va aussi permettre à plein de femmes françaises, parce que maintenant que le législateur s'engage, d'avoir accès, mais même sur tous les territoires en France. Et puis surtout, comme le disait Laurence Rossignol, qu'on entendait dans votre journal, effectivement, les anti-avortements sont très organisés, ont énormément de moyens. On les voit souvent, on les a vus devant le Sénat. Et aujourd'hui, la société française leur apporte une réponse très claire.
Vous avez dit, Namouglalis, que vous pensiez effectivement à Simone Veil, à celle des années 70, à celles qui ont souffert. Il y a les féministes d'aujourd'hui, effectivement, et qu'on a entendu, qui ont pris ce combat. J'allais presque dire en route au moment où on leur disait « Non mais où est-ce que tu vas ? Le débat est clos, en fait. » Et il y a toutes celles-là aussi.
Le débat n'est pas clos. On voit ce qui se passe un peu partout en Europe. On a vu le combat extraordinaire des Argentines. Moi, j'ai vraiment cru qu'au Chili, cette nouvelle constitution qui devait être écrite pour la première fois au monde en parité allait avoir lieu. Il se trouve que, voilà, il y a des reculs. Il faut continuer à se battre, mais il faut savoir fêter quand on a des victoires.
Et en profiter, c'est ce que vous êtes en train de faire. Dernière question rapide pour vous. Vous avez une fille. Elle vous en a parlé? Vous lui en avez parlé? Comment ça se passe entre vous deux?
Bien sûr. Elle est en fait, elle aussi. Je pense à toutes celles d'avant, celles d'aujourd'hui. Et puis, effectivement, on pense à nos filles. Et elles vont vivre dans cette société où cette liberté à disposer de son propre corps ne sera plus remise en cause.
Et bien, profitez de ce moment que vous êtes en train de vivre, Anna Mouglalis. Merci vraiment beaucoup. Merci à Manon Derdevet. Merci à Romain Lucquiens également.
Et on reviendra sur le résultat de ce vote au Congrès de Versailles, évidemment, dans le journal de 19h. L'actualité ce soir, c'est aussi le parquet de Melun qui requiert un procès pour homicide et blessures involontaires aggravées dans l'affaire Pierre Palmade, annonce près d'un an après le grave accident de la route impliquant l'humoriste sous l'emprise de stupéfiants. Il a percuté un véhicule arrivant en face sur une route départementale faisant 3 blessés graves, dont une femme qui a perdu ensuite le bébé qu'elle attendait. Lui est ce soir mis en examen pour ce même chef d'homicide involontaire, le conducteur du car impliqué dans un accident hier sur l'autoroute A6 près d'Aiguilly en Côte d'Or. Une adolescente de 15 ans est morte. Elle était originaire des Andelys dans l'Eure. Et l'actualité judiciaire encore, et c'est l'ouverture de ce procès au tribunal judiciaire de Paris, celui de ce supermarché virtuel organisé sur la messagerie cryptée Telegram. Affaire dite de la Genèverie, du nom du groupe Telegram, où il était possible d'acheter des montres de luxe, des informations tirées de fichiers de la police ou encore des faux papiers d'identité. Et c'est par cet aspect que commence ce procès aujourd'hui. Delphine Evenou, vous suivez l'audience, où il est question du profil du faussaire aguerri mais aux allures de Monsieur Tout-le-Monde.
Voilà quelqu'un qui mène bien sa carrière professionnelle, commente le président de la 13e chambre correctionnelle. Et effectivement, celui qui se surnomme Volris côté illégal a un parcours, si ce n'est exemplaire, au moins classique. DUT informatique, alternance qui aboutit à un contrat, un chasseur de tête le repère et Thalès le débauche. À son interpellation, il touche alors 3800 euros par mois. Alors comment s'est-il retrouvé à faire de la fabrication quasi industrielle de faux papiers ? Le jeune homme, 28 ans aujourd'hui, petit génie de l'informatique, va sur le dark web par curiosité, dit-il. L'illégalité y est presque naturelle, j'ai voulu essayer et j'ai glissé. Son premier faux document, une date modifiée sur une facture pour aider une vieille dame. Il rejoint Telegram, passe de 2 à 3 commandes par mois à 2 à 3 commandes par jour. La Genèverie n'est qu'un de ses revendeurs. Il loue 3 appartements sous de fausses identités et entrepose du matériel de pointe. En 2 ans et demi, il estime son chiffre d'affaires à plus de 300 000 euros. Lors de sa garde à vue, l'ingénieur donne tout, les codes, les adresses, le complice et le plan de son labyrinthe numérique. À la barre aujourd'hui, il dit avoir été soulagé quand les enquêteurs ont frappé à sa porte.
Delphine Evenou, service police-justice de France Inter, en direct du tribunal judiciaire de Paris. Voilà un scénario qui rappelle les attaques terroristes du 13 novembre 2015. Le parquet fédéral belge indique ce soir qu'un projet d'attentat visant une salle de concert de Bruxelles a été déjoué. 4 hommes, dont 3 mineurs, ont été interpellés. On y revient dans le journal de 19h.
Des chefs d'établissement rassemblés pour soutenir un de leurs collègues.
Le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, il est menacé de mort sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ça fait suite à une altercation mercredi dernier avec une élève à qui il a demandé de retirer son voile. Bonsoir Mathilde Bouquerel.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette manifestation de quelques dizaines de chefs d'établissement qui voulaient ainsi alerter sur leur exposition à ce type de violence.
Oui, comme Christophe Laborde, proviseur au lycée Victor Duruy à Paris, venu exprimer son inquiétude.
Nous sommes de plus en plus exposés, non seulement sur des affaires scolaires, mais aussi sur des affaires de valeurs. Les atteintes à la laïcité sont inacceptables et nous devons être des remparts, mais il faut que nous soyons soutenus, et notamment soutenus par la société.
L'élève du lycée Ravel affirme en fait que le proviseur l'a frappée au niveau de l'épaule alors qu'elle remettait son voile avant de sortir du lycée. Elle a porté plainte, des camarades ont témoigné au commissariat. L'affaire a ensuite enflé sur les réseaux sociaux, des circonstances qui rappellent celles qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty pour Catherine Navbekti, secrétaire générale du SGEN CFDT.
On est bien dans une logique de cabale sur les réseaux sociaux, de décrire les faits de manière déformée et de diffuser des appels à la violence et des appels au meurtre. Donc c'est particulièrement important que le ministère de l'Éducation nationale et les autorités publiques se soient organisées pour faire supprimer des messages et mettre un terme à cette inflation de messages d'appels à la haine, parce qu'on voit bien que ce terreau, parfois, malheureusement, il peut déboucher sur des passages à l'acte.
Et le proviseur, quant à lui, a porté plainte pour intimidation envers une personne participant à une mission de service public.
Reportage signé Mathilde Bouquerel.
Il sera bien possible pour les électeurs républicains de voter Donald Trump demain.
Oui, lors des primaires du Colorado, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la décision de la justice de cet État du Nord-Ouest qui rendait l'ancien président inéligible sur son sol en raison de son implication dans l'assaut du Capitole en 2021. Demain, c'est le Super Tuesday aux États-Unis. 15 États vote en même temps pour les primaires. Cette journée pourrait sceller la victoire de Donald Trump face à Nikki Haley, sa dernière adversaire en lice. Le phénomène est mondial, mais l'inflation n'a clairement pas la même ampleur selon le pays. Ainsi, en Turquie, elle est en ce début février de 67% sur un an pour l'alimentation. C'est même plus de 70% d'après les données publiées par le gouvernement aujourd'hui, mais qui pourraient être sous-estimées de l'avis de certains économistes. Les Turcs ont en tout cas de plus en plus de mal à faire leurs courses. Reportage dans les rues d'Istanbul de la correspondante de France Inter, Marie-Pierre Véraud.
Nous sommes dans le marché populaire de Kaïtané, réputé pour ses bons prix. Zélia regarde les étals de mandarines, de salades. Le cabas de cette retraitée reste vide.
L'inflation, c'est pas 68%, c'est 300%. Les prix changent toutes les semaines. L'inflation, on la ressent même tous les jours. Et attendez, après les élections, ce sera encore plus dur. C'est très cher.
Le ramadan approche et Fadime est venu de la mer Noire faire des provisions.
Nous, on achète de quoi faire le pain, les pâtes à l'avance. Pendant le ramadan, les prix vont flamber. Tout. Ce qui coûte 5 livres va en coûter 10. Ce qui est à 10 livres va passer à 50. Ce qui est à 50 coûtera 100.
Tout à côté, la vendeuse de chaussettes se lamente. Elle a beau rogner sur ses marges, elle ne parvient plus à payer la location de son stand.
Ça fait 2 ans que les prix flambent. Tout est devenu trop cher. Comment on va faire pour la rupture du jeûne? Les tomates, je ne vais même pas les regarder. La viande, on ne sait plus ce que c'est. Les concombres, je n'en mange plus depuis des mois. On ne vit pas, on survit.
Pendant le mois de Ramadan, elle s'est arrangée avec ses voisins pour que chacun organise à tour de rôle la rupture du jeûne. Même la mosquée, dit-elle, fait maintenant payer les repas. Istanbul, Marie-Pierre Véro, France Inter.
Un grand soulagement, dit ce soir Clarisse Kremer.
La navigatrice est blanchie par un jury international. Des soupçons de tricherie la concernant, une affaire qui remonte au dernier Vendée Globe en 2021 et qui a commencé par l'envoi anonyme de captures d'écran, de messages échangés alors qu'elle était en course avec son mari, le skipper Tanguy Le Turquet, qui pouvait suggérer qu'elle a reçu des informations météo, ce qui est rigoureusement interdit. Jérôme Val.
Aucune aide de météo pour l'aider dans sa trajectoire, aucune aide à la performance, aucune mauvaise conduite. Les conclusions du jury ne laissent pas de place au doute. Clarisse Kremer n'a pas triché, elle n'a pas reçu d'assistance de la part de son mari Tanguy Le Turquet, lui aussi navigateur mais qui était à terre il y a 3 ans. Cette affaire avait démarré par l'envoi anonyme de 14 captures d'écran d'un téléphone qui se trouvait à bord du bateau. On y voit dans ces messages par exemple des propositions de routes pour le monocoque, mais avec des informations insuffisantes, explique le jury, pour vraiment assister Clarisse Kremer. Cela tient plus, je cite le rapport, du fait qu'en tant que mari, il voulait comprendre les intentions de Clarisse pour se rassurer sur sa sécurité. Le jury international conclut que ces messages envoyés par un mari à sa femme n'étaient pas une chose sage ou nécessaire, mais rien de plus. Clarisse Kremer va donc pouvoir poursuivre sa préparation pour le prochain Vendée Globe, mais le débat sur ce que doit être une assistance sur un tour du monde est loin d'être éteint.
Jérôme Val, le prochain Vendée Globe partira le 10 novembre des Sables d'Olonne. Nouvelle arrivée au sprint aujourd'hui sur Paris-Nice et 2e victoire néerlandaise en 2 jours. Cette fois, c'est Arvid De Kleyn qui s'est imposé à Montargis. Le néo-zélandais Lauren Spiti s'empare du maillot jaune. Demain, place un contre-la-montre par équipe, 27 km autour d'Auxerre. Enfin, cette question, les éléphants enterrent-ils volontairement leurs morts comme nous le faisons? Eh bien, c'est ce que veulent déterminer des chercheurs indiens qui ont mené une étude sur le comportement d'un groupe d'éléphants d'Asie. À la mort de leurs petits, certains ont été transportés puis enterrés sur le dos. Alors, rite funéraire ou pas, eh bien c'est plus compliqué que ça, Sandy Dauphin.
L'étude a été menée sur des éléphants en Inde, dans le nord du Bengale. Les chercheurs ont observé le comportement du troupeau à la mort d'un éléphanteau sur 5 sites différents. À chaque fois, les adultes ont transporté le corps et l'ont enterré. Sur les photos, on ne voit que les 4 pattes qui sortent de terre. Dans l'un des cas, le troupeau a même barri bruyamment près de la dépouille. Ce n'est pas la première étude sur l'empathie des éléphants vis-à-vis de leurs congénères, rappelle Emmanuelle Pouille-Debat, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du comportement animal.
On sait qu'effectivement, il y a des réactions chez les éléphants d'Afrique, en tout cas ça a bien été démontré, qui témoigne vraiment d'un traitement émotionnel qui est intensif, avec des réactions de compassion. Et d'ailleurs, c'est décrit aussi dans cet article-là, des vocalisations qui sont apparentées à des émotions très fortes, quoi.
Mais impossible pour autant d'en conclure que les éléphants ont des rites funéraires comparables aux humains.
C'est un comportement qui est assez fascinant parce que forcément, ça nous fait penser au nôtre. Et nous, effectivement, on enterre. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un véritable enterrement. Le fait de recouvrir les corps, ça existe chez d'autres espèces, chez les chimpanzés, ça a été décrit aussi. Et c'est vraiment plus pour protéger de pathologies aussi, hein, qui sont liées aux cadavres. Donc, il faut faire attention de ne pas calquer ce que nous, on aimerait y voir ou d'imaginer que c'est exactement la même chose que ce qu'on fait nous. Ils ne font pas comme les humains, ils font comme les éléphants.
Reste que c'est la première fois que des cas d'éléphants enterrés sont signalés en Asie. Pour l'instant, les seuls cas documentés étaient en Afrique.
Sandy Dauphin, service Sciences, Santé, Environnement de France Inter. Voilà, les éléphants font comme les éléphants, Fabienne.
Voilà, faut me garder et m'emporter. Vous l'avez?
Non.
Non, bah, vous êtes désespérément jeune. Allez, à tout à l'heure, je vous dirai ça tout à l'heure.
Allez, d'accord.
Sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
De l'autre côté de la vitre, il l'avait, Eddie Mitchell. Elodie Kallak, bonsoir. Pluie ou averse alors au menu?
Eh bien, les deux.
De l'eau quand même.
Oui, ce soir, on aura des pluies actuellement sur l'ouest qui se décalent vers l'est. On les retrouvera d'ailleurs demain matin près des frontières du nord et sur la façade est. Ce sera de la neige sur les massifs. Attention toujours au risque d'avalanche. Ailleurs, le ciel sera partagé demain, alors quelques éclaircies. Elles s'élargiront un petit peu l'après-midi. Il faudra composer avec du vent et des averses également. Elles seront plus nombreuses sur l'ouest, parfois soutenues et orageuses sur le sud-ouest. sur la Normandie également. En montagne, toujours un peu de neige. Et puis, les régions méditerranéennes, je vais y arriver, resteront à l'écart. Ce sera ensoleillé avec du vent et une rare averse.
Température globalement de saison.
Souvent 2 à 10 degrés le matin, ça monte un petit peu hein, par rapport à ce matin. Et puis l'après-midi, 8 à 13 degrés attendus, 10 à Cherbourg, Paris, Nancy, Clermont-Ferrand, Tarbes. On ira jusqu'à 14 à 17 sur le sud-est, les 17 pour la Corse du côté de Bastia.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie. Vous reviendrez tout à l'heure après le journal